IDFM Radio, le média valdoisien. Bonjour et bienvenue à l'économie en direct sur IDFM Radio, une émission que vous pouvez écouter en FM sur 98.00, en web radio sur 98.fr, en DAB+ pour toute l'Île-de-France et sur notre appli dans le monde entier. Une émission à retrouver comme bon vous semble en podcast sur IDFM98.fr. Jacqueline Voraz au micro d'IDFM Radio avec Francky à la technique. Bonjour Francky. C'est une commune du Val d'Oise, située à flanc de coteau à l'orée de la forêt de l'Isle-Adam, dominant la plaine de France à environ 25 km au nord de Paris. Et cette commune n'est autre que Montsou, et dont les habitants sont les Montsoulois. Montsoultois, pardon. Ce matin, mardi 8 avril 2025, découvrons cette charmante ville à travers le témoignage de son maire et deux de ses adjoints. Bonjour, monsieur le maire Silvio Biello.
Bonjour.
Je suis ravie de vous accueillir enfin dans l'économie en direct. Élu maire en 2020, vous êtes également président du CIRGES et vice-président de la communauté de communes Carnel Pays de France. J'ai découvert en effet que cette communauté de communes était très vaste.
Oui, c'est un grand territoire composé essentiellement de terres agricoles, ce qui en fait justement un large territoire. Ouais. Mais pour autant, en population, c'est une petite communauté de communes, comparée à d'autres d'Île-de-France.
Vous nous direz ça tout à l'heure. Oui. Avec vous, nous allons mieux découvrir votre commune, ses enjeux locaux et vos projets pour renforcer encore mieux les liens avec vos administrés. À vos côtés, Laurence Cartier-Boitard. Bonjour Laurence.
Bonjour.
Merci pour votre présence dans nos studios. Maire adjointe en charge des finances de l'administration générale, de la jeunesse et des loisirs, vous nous expliquerez votre mission au sein de cette commune et tous les défis qui doivent en découler. Et à vos côtés, Gilles Weckmann, maire adjoint en charge du développement durable, des sports et de la vie associative. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Très heureuse de vous recevoir chez IDFM Radio. Tout comme Madame Boitard, vous nous dévoilerez vos responsabilités de maire adjoint et leur impact sur la vie de la commune. Bienvenue dans l'économie en direct et merci d'être les invités en direct sur IDFM Radio.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Mais avant de vous donner la parole, retrouvons ce matin notre analyste géopolitique valdoisien, Gérard Vespierre, dans le cadre de sa rubrique « Décryptons le monde ». Bonjour Gérard.
Bonjour Jacqueline, je salue également vos invités et tous nos auditeurs.
Alors Gérard, une chronique qui s'intitule aujourd'hui « Dossier turc, démocratie à Istanbul, autoritarisme à Ankara ». Vous nous invitez donc ce matin à traverser le Bosphore, qui sépare pratiquement le continent européen de la Turquie. Vous nous avez déjà donné l'occasion d'aborder le dossier turc, comme vous l'appelez. Quels sont les éléments nouveaux et importants aujourd'hui à vos yeux ?
Eh bien, la Turquie, un pays de 85 millions d'habitants à la frontière de l'Europe, membre de l'OTAN, dirigé par Recep Erdogan depuis 2003 comme Premier ministre, puis président depuis 2014, a fait beaucoup parler d'elle depuis 20 ans. Impulsion islamo-nationaliste d'Erdogan, à l'opposé de la tradition laïque depuis 80 ans en Turquie, friction avec son voisin grec, contributeur à la guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, envahisseur du territoire syrien, frappe aérienne et présence militaire en Irak, et la liste continue, achat du missile russe alors qu'elle est membre de l'OTAN et donc objet de sanctions américaines en retour, sans oublier bien sûr son attitude parfois très agressive contre l'Europe dans la crise des migrants. La liste est très longue, il y a beaucoup de chapitres, d'où le titre de dossier turc. Mais aujourd'hui, c'est sa situation intérieure qui est à l'ordre du jour. Il s'agit de l'arrestation par le régime de Recep Erdogan, de son principal opposant politique, Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul, 3 jours avant la primaire ouverte pour désigner le candidat à l'élection présidentielle de 2028. Le pays s'est mis en ébullition, manifestations géantes à répétition, plusieurs centaines de milliers de personnes, plus de 2000 arrestations, dont une dizaine de journalistes, Cette situation crée une très grande préoccupation internationale et nul ne sait aujourd'hui comment les choses peuvent évoluer.
En effet, l'actualité internationale a souvent résonné avec un accent turc, mais sa situation intérieure a reçu moins d'attention. Pouvez-vous nous parler de M. İmamoğlu et du pourquoi de cette arrestation ?
Eh bien, il a été élu maire d'Istanbul en 2019, membre du parti d'opposition, le CHP, le Parti républicain du peuple, social-démocrate, principal parti d'opposition. Il fait perdre au président Erdogan, donc, et à l'AKP, cette mairie d'Istanbul qu'il détenait depuis 25 ans et qui avait marqué le début de la carrière politique nationale de Recep Erdogan. Donc c'est une réelle déflagration, même si victoire de M. İmamoğlu est seulement de 13 000 voix. Et ce qui a donc en conséquence poussé le pouvoir à jouer la carte de l'annulation. Et cette annulation a été actée, donc on a déjà là la première collusion du politique et du judiciaire, n'ayant pas peur des mots. Il y a donc eu un deuxième tour, et là, catastrophe, la défaite n'a pas été de 13 000 voix, mais de 100 000 voix. Donc, confirmation de l'élection de M. İmamoğlu, et avec un camouflet sur cette procédure abusée d'annulation. Cette victoire, à double reprise, a créé un véritable choc politique intérieur.
En somme, vous voulez dire, Gérard, que cette victoire d'Ekrem İmamoğlu a eu d'autres conséquences politiques en Turquie depuis son élection comme maire d'Istanbul en 2019 ?
Tout à fait, Jacqueline. Le parti d'Ekrem İmamoğlu et ses alliés a également fait perdre la majorité absolue à l'Assemblée nationale, à l'AKP, parti d'Erdogan en 2023. Cette même année et le même jour se déroulaient les élections présidentielles. Ekrem İmamoğlu n'a pas pu s'y présenter. Il était déjà désigné comme l'ennemi numéro un, l'homme à abattre. Il a donc été l'année précédente, en 2022, victime déjà d'accusations qui ont abouti à sa condamnation. Cette décision judiciaire l'empêchait juridiquement de concourir à l'élection présidentielle. À nouveau, collusion, complicité entre pouvoir politique et pouvoir judiciaire. Néanmoins, un candidat réunissant quatre partis de l'opposition, dont bien sûr le CHP d'Ekrem İmamoğlu, réussira à mettre Erdogan en ballottage et obligera donc à un deuxième tour de scrutin, situation qu'il n'avait jamais connue. Il gagnera d'une faible marge avec 52% des voix finalement. Les fissures s'accumulent donc au fil des ans pour le président Erdogan. En plus de cette élection nationale, le CHP d'Ekrem İmamoğlu a également battu le parti de Recep Erdogan en 2024 aux élections municipales en cumulant le plus de voix au total national. Le parti AKP de Recep Erdogan n'est plus le premier parti politique turc alors qu'il occupait cette position depuis plus de 20 ans. L'opposition gère ainsi au quotidien 65% de la population turque et 80% de l'économie du pays. La capitale politique Ankara a également maintenant à sa tête un membre du CHP. À cette élection municipale de 2024, Ekrem İmamoğlu a été réélu à Istanbul avec 10% de voix d'avance sur son rival appartenant, comme vous l'avez deviné, au parti de Recep Erdogan. Les fissures ont donc continué de s'accumuler pour le président turc.
Oui, mais alors quelles sont les accusations qui cette fois ont été portées contre Ekrem İmamoğlu ?
Dans une ville de plus de 16 millions d'habitants, Istanbul, les dossiers économiques, d'investissement, les achats sont éminemment nombreux et importants. Quand le pouvoir judiciaire est envahi par le pouvoir politique, il est dès lors très facile de monter des accusations de corruption. Telles sont les accusations portées contre Ekrem İmamoğlu. Mais n'étant pas sûr que cela puisse suffire, le pouvoir politique a pris soin de demander à l'éducation nationale d'annuler son diplôme universitaire. Or, dans la législation turque, il est stipulé que tout candidat à l'élection présidentielle doit disposer d'un diplôme universitaire. Le pouvoir peut être sûr à 100% de son élection, de la prochaine élection présidentielle, et donc toutes les dispositions sont prises pour y arriver.
Oui, en somme, la situation apparaît en effet extrêmement tendue et radicalisée dans le domaine politique. Quelle est la situation actuelle en Turquie sur le plan économique ?
La Turquie traverse une période économique difficile depuis plusieurs années avec un taux d'inflation autour de 40%. Pour des raisons idéologiques et politiques, Recep Erdogan a refusé l'augmentation des taux bancaires avant l'élection présidentielle de 2023 pour lutter contre cette inflation. Le taux de chômage se situe autour de 8%, mais à 14% chez les jeunes. Le taux de la banque centrale a été libéré après l'élection et se place maintenant à plus de 40%. Oui, vous entendez bien, 40%. Inutile de dire que les investissements des entreprises et des ménages sont au ralenti. La monnaie turque s'est effondrée. Il fallait en 2020 7 livres pour obtenir 1 euro. Il faut maintenant plus de 40. La monnaie turque a perdu 11% de sa valeur le jour même de l'arrestation d'Ekrem İmamoğlu. À une situation économique plus que difficile, s'ajoute maintenant une situation politique imprévisible.
Oui, ce tableau global de la situation en Turquie est plus que gris. Selon vous, à quoi faut-il s'attendre ?
La capacité de répression du régime est très importante. Nous l'avons déjà vu à l'œuvre en 2016, lors de la tentative de coup d'État. Mais à cette époque, la situation économique était positive. La Turquie se plaçait dans un cycle de croissance. Ce n'est plus le cas. Erdogan était au fait de son pouvoir, ce qui n'est plus le cas non plus. Le temps passe et le pouvoir politique se trouve de plus en plus usé. Les réseaux électoraux le prouvent, les résultats électoraux le prouvent. Le parti d'Erdogan, l'AKP, parti de la justice et du développement, devient pour le citoyen le parti de l'injustice et de l'appauvrissement. La population est fatiguée par des années de haute inflation et les jeunes sont très remontés contre le pouvoir. L'étoile d'Erdogan pâlit, fatigué, peut-être malade, il se battra jusqu'au bout en utilisant tous les pouvoirs politiques et judiciaires. Ce coup de force contre un leader d'opposition reconnu sera-t-elle une erreur fatale ? Verrons-nous des présidentielles anticipées ? Le dossier turc reste ouvert, nous en reparlerons.
Merci Gérard pour cette description détaillée de cette nouvelle situation en Turquie. Le dossier turc reste ouvert en effet. C'est ainsi que se termine notre chronique géopolitique pour aujourd'hui, Décryptons le monde. Retrouvez tous les écrits et interventions médias de Gérard Vespierre sur son site www.lemondedécrypté.com. À bientôt Gérard.
À bientôt et bonne émission.
On marque une pause et on retrouve nos invités juste après.
On s'est construit un monde qu'on a abandonné. Il suffit d'une seconde pour que tout parte en fumée. Si le cœur a raison, on a tous les deux tort. J'ai beau tenir les murs, y'a plus rien à sauver. T'as tout donné. J'avais le bonheur au bout des doigts. Tes yeux le disent pourquoi. Tu me regardes plus comme avant. Même tout l'amour du monde pourra pas nous réparer. Je sais qu'il est trop tard. On peut toujours faire semblant. Mais tout l'amour du monde pourra pas nous réparer. Je fonce mes rêves. C'est où je cache mes rêves. Casse les miroirs pour plus voir ton reflet. J'froisse mes rêves, c'est où j'cache mes regrets. J'casse les miroirs pour plus voir ton reflet. T'as craqué la porte, t'avais raison, j'ai pas fait ma part. Dans ce jeu, j'suis seul à perdre. J'étais pas celui que tu attendais. Hier encore, t'étais si près de moi. Tous les soirs, j'me dis si seulement. Tout d'un coup, je me sens si seul au monde, seul au monde. T'as tout donné pour moi. J'avais le bonheur au bout des doigts. Tes yeux le disent pourquoi. Tu me regardes plus comme un.
cache mes regrets. Je casse les miroirs pour plus voir ton reflet.
IDFM Radio, 98 FM.
C'est l'économie en direct. Merci d'avoir choisi IDFM Radio et d'être à notre écoute ce matin. Une émission dédiée à la ville de Montsou avec à mes côtés Silvio Biello, maire de Montsou, Laurence Cartier-Boitard, maire adjointe, et Gilles Weckmann, maire adjoint. Alors, Laurence en charge des finances de l'administration générale de la jeunesse et des loisirs, Gilles Weckmann du développement durable des sports et de la vie associative. Alors, Silvio Biello, comme je disais, je suis ravie de vous accueillir ce matin. En 2020, vous avez été élu donc maire de Montsou. J'espère que vous aurez un sort moins terrible que Monsieur Imamoglu. Je vous laisse vous présenter auprès de nos auditeurs.
Bien, bonjour. Merci de nous recevoir sur votre antenne. Donc, je suis Silvio Biello, maire de Montsou, et c'est mon premier mandat de maire. Et auparavant, dans la mandature précédente, j'étais conseiller municipal de la minorité.
D'accord.
Dans une liste qui avait été conduite par Laurence Cartier-Boitard, à mes côtés, ici présente.
Très bien.
Et donc, nous avons été élus en 2020 et c'est vrai que les conditions à l'époque, avec le Covid, hein, c'était très particulier. Mm-hmm. On est élu le 15 mars et le 17 mars est déclaré...
Le jour du confinement.
Deux jours après, c'est le confinement et ça nous a imposé justement une prise de fonction retardée, reportée à fin mai 2020. D'accord. Donc on est resté pendant deux, trois mois là à attendre, à être spectateur de cette chose incroyable qui a été le confinement, le premier confinement.
En même temps, ça vous a peut-être permis aussi de préparer votre arrivée à la mairie.
Oui, on était impatients et on était un peu décontenancés par une situation que personne n'avait connue auparavant. C'était tellement nouveau, tellement spécial que on était plutôt impatients.
Oui, je comprends.
Oui.
Combien d'habitants à Montsou, Monsieur Biello?
Alors, nous sommes aux alentours de 4300 habitants. Je dis aux alentours parce qu'il y a un recensement qui vient de se terminer là il y a quelques semaines. On n'a pas encore les résultats. Juste avant le recensement, on était 4150 et quelques.
D'accord.
Et je pense qu'on a augmenté un peu. Donc on doit être entre 4002 et 4003.
Alors, être maire, c'est une charge importante. Qu'est-ce qui vous a poussé, encouragé à vous présenter à cette élection?
Alors, je suis, dans mon parcours, j'ai toujours été proche de l'équipe en place à la mairie de Montsou. Je suis un ami intime de la famille Boistard et Jean-Claude Boistard était le maire. Il a été maire de 2001 à 2014.
D'accord.
Auparavant, il a été premier adjoint. Il avait une vie d'élu très très dense, très très riche. Et je suis un proche de la famille, et donc mon épouse était même conseillère municipale dans la mandature de 2008. Donc pour j'organisais...
C'est
dans l'ADN, je crois. Et puis lorsque nous avons perdu en 2014, Laurence à mes côtés vous le dira mieux que moi, mais elle n'a pas souhaité reconduire une liste sur 2020, en tout cas comme tête de liste. Mm-hmm. Et donc la question s'est posée aux alentours de 2017-2018. On se posait la question, qui va prendre la tête de la liste en 2020, parce qu'on souhaitait vraiment reprendre le flambeau, reconquérir. Oui. Parce que bon, ce qui s'est passé dans la mandature précédente, on va pas faire de politique, c'est le passé, mais il y a différentes choses qui nous convenaient pas et on avait vraiment à cœur de préserver notre petite ville. C'est surtout ça, préserver notre petite ville. C'était notre inquiétude.
Oui, c'est vrai qu'une charmante ville, oui.
Et plusieurs personnes de l'équipe se sont tournées vers moi pour me dire ça serait pas mal si c'était toi, et donc ça a enclenché une réflexion chez moi. Une réflexion, et puis, voilà.
Voilà, j'ai accepté. Vous avez accepté, voilà. Et apparemment, ça se passe très bien, si j'ai bien compris.
J'ai l'impression, oui.
Alors, j'ai juste une parenthèse. J'ai rencontré Monsieur Boitard, votre père, Laurence, lorsque j'étais venue à une inauguration du parc. Vous savez que vous avez fait...
L'aire de loisirs.
Voilà, c'est ça. Donc, j'avais eu l'occasion d'échanger un petit peu avec votre papa. Alors, depuis votre élection, Monsieur Biello, quelles sont les principales mesures prises, notamment, on va parler déjà en matière économique, hein?
Alors, il faut savoir que Montsou est une ville qui se porte bien sur le plan financier. À ma connaissance, j'ai pas souvenir de difficultés particulières sur le plan des finances à Montsou. Nous sommes une commune...
Donc, toujours une ville bien gérée.
Voilà, nous sommes une ville qui a toujours été bien gérée. Et l'idée, c'était de continuer à bien la gérer.
Bien sûr, oui. C'était l'enjeu.
Voilà, c'est ça. C'est une petite ville qui dispose de quelques moyens financiers par la présence notamment d'une zone d'activité économique, enfin de plusieurs secteurs d'activité économique sur Montsou, et ce qui permet de pouvoir se projeter, d'avoir des projets, d'avoir quelques ambitions. Et puis, on parlait de l'aire de loisirs, par exemple, juste avant. L'aire de loisirs est une réalisation de notre mandat. Ça, c'est assez symbolique et représentatif de ce que Montsou peut faire. Pour une petite ville comme Montsou, c'est assez ambitieux. Les entrepreneurs qui nous ont construit cette aire de loisirs, nous l'ont réalisé, nous disaient, mais vous savez, monsieur le maire, il y a peu de villes où il y a une infrastructure comme celle-là.
Ah oui, oui, oui.
Et même dans les plus grandes villes.
Donc c'est très positif.
C'est très positif. Oui.
Alors justement, vous parlez de cette zone industrielle. Est-ce que c'est la ville qui accompagne les entreprises et les commerces locaux? Oui, j'imagine. Ou c'est plutôt les entreprises qui... Est-ce que s'il y a une réciprocité?
C'est ça. C'est une réciprocité. C'est intéressant pour les entreprises d'être sur Montsou parce que nous pratiquons une imposition, une fiscalité aux entreprises qui est raisonnable, plus raisonnable que sur certaines autres communes. Donc c'est intéressant pour elles. Et eux, en contrepartie, nous apportent une manne financière non négligeable, comme je vous le disais juste avant. Donc je pense que c'est donnant-donnant, il y a un vrai partenariat. On est plutôt dans cet état d'esprit.
Ouais, c'est...
Nous avons pas des grandes enseignes, hein, sur Montsou, nous avons Leroy Merlin, nous avons Vinci, qui a un site de plus de 15 hectares. Nous avons la STEF aussi, qui a un site très important.
Qui existe depuis longtemps.
Et là, par exemple, nous avons le Roi Merlin à Montsou qui se restructure complètement. Donc nous sommes là aussi en soutien pour les aider à réaliser leur projet, qui est magnifique. Un magnifique projet de restructuration, de les aider dans l'obtention des permis de construire et toutes les problématiques administratives qu'il peut y avoir autour de ça. Et pareil pour Vinci. Il se trouve que et le Roi Merlin et Vinci restructurent la totalité de leur site.
Donc
et
c'est
nous
plutôt...
sommes là pour les aider.
Oui, oui. Et c'est oui, voilà, ça apporte probablement une valeur ajoutée à la ville de Montsou, hein, qui bénéficie forcément de cette remise en looking, en relooking.
C'est ça. C'est ça. Nous allons avoir une ville toute neuve.
Oui. Avez-vous des projets d'urbanisme ou d'environnement, même si je pense qu'on y reviendra peut-être avec Laurence et Gilles, mais si vous voulez nous en dire un mot.
Alors concernant l'urbanisme, des projets d'urbanisme...
Pas encore.
Des fois, on ressent le mot urbanisme comme un gros mot, si vous voulez, donc on est assez... bon, je suis un peu trivial, mais...
Oui.
Vous comprenez l'idée qu'il y a derrière que urbaniser, c'est pas vraiment le projet de mon projet et celui de mon équipe. Oui, il faut urbaniser, mais il faut le faire intelligemment, il faut le faire modérément, il faut le faire selon les besoins que peut avoir la ville. Bon, faut se projeter aussi. C'est vrai que une ville qui ne construit pas du tout est une ville qui meurt. Ça s'est déjà constaté par ailleurs. Donc, avoir quelques constructions, mais il faut le faire intelligemment. Voilà. Donc, on est plutôt prudent, avec parcimonie, tout ça. Et il se trouve que nous sommes en révision de PLU en ce moment.
Oui.
Le PLU, bon, c'est quelque chose d'un peu technique, mais je pense que beaucoup de gens savent ce qu'est qu'un PLU. Le PLU, c'est ce qui va justement définir le cadre à l'intérieur duquel on va autoriser un type de construction par secteur et puis on va cadrer justement pour ne pas que ce soit trop débridé. on va définir des hauteurs de bâtiments, des emprises au sol, etc. Et nous sommes en révision de PLU et justement, nous sommes en réflexion avec le bureau d'études qui nous soutient dans cette démarche. Nous sommes en réflexion pour savoir quels sont les secteurs de la ville qui doivent être préservés, préserver le vieux Montsou. Il y a toute une partie de Montsou dans le haut, là, vers, justement, vous disiez que nous étions à l'orée de la forêt de l'Isle-Adam. Et le vieux Montsou, le Montsou historique, se situe tout là-haut, là, vers la forêt. Et il faut prendre des dispositions particulières pour protéger cette partie de la ville. Et à l'inverse, il y a des contraintes qui nous sont imposées par le schéma directeur de la région Île-de-France, qui s'impose à toutes les communes d'Île-de-France, où on nous demande de densifier vers les gares, justement. Il y a une idée intéressante derrière ça, c'est que on pense que si la population est plus dense vers les gares, on utilisera moins les transports individuels pour plus d'utilisation des transports en commun.
C'est l'idée
qu'il y a derrière ça.
Oui, parce que quoique à Montsou, vous avez une gare.
On a une gare justement, c'est pour ça qu'on est concerné directement par cette chose qui est imposée par le schéma directeur. On doit densifier près des gares. Et pour autant, on essaye justement de densifier, mais modérément. Toujours modérément.
Oui, parce que votre gare de Montsou, c'est une plaque tournante par rapport à des villes comme l'Isle-Adam qui ne sont pas.
Montsou est une, ce qu'on appelle à la SNCF une tête de ligne, c'est-à-dire qu'à partir de Montsou, se divisent deux lignes, une qui va sur l'Usarche et une autre qui va sur Persan.
D'accord.
Et donc on a plus de trains à Montsou puisqu'on a la ligne de l'Usarche et la ligne de Persan. Et à partir de Montsou, elle se divise en deux. Donc après, c'est vrai qu'il y a moins de trains.
Forcément. Voilà. Alors, Monsieur Biello, est-ce que la sécurité et la cohésion sociale sont une problématique à Montsou?
Oui, bien sûr. Oui. On n'échappe pas à cette problématique. Bien sûr, c'est une question qui se pose, je crois, à tous les élus. On est une petite ville, donc on a des problématiques qui sont à la mesure de notre démographie, de notre territoire. Mais pour autant, la mixité sociale est une question qui se pose. Par exemple, nous ne sommes pas nous n'entrons pas dans le cadre de la loi SRU, la loi, vous savez, qui impose un pourcentage de logements sociaux, les 25% de logements sociaux imposés. Donc, Montsou fait partie des communes, parce qu'il y a différentes conditions pour être concerné par cette loi, et Montsou ne remplit pas ces conditions. Donc, nous ne sommes pas concernés par ces 25% de logements sociaux. Pour autant, nous avons des logements sociaux à Montsou, nous en avons environ 15%. Donc, il me semble qu'à notre humble niveau, nous remplissons...
Vous remplissez les critères.
Notre part de responsabilité. Il faut des logements pour tous. Il y a une crise du logement, donc nous devons y participer. Pour 25% de logements sociaux à Montsou, ça serait... trop, je pense.
Proportionnellement, ça serait trop.
En proportion, et bon, la loi SRU est remise régulièrement en question par nos représentants à l'Assemblée nationale, parce qu'elle a des aspects qui sont positifs en ce sens que on cherche du logement, on cherche à créer du logement. Mais est-ce que c'est une bonne manière de faire? C'est toujours en discussion. Voilà. Ça, c'est pour la partie... sociétale, la dimension sociétale, mais après vous me parliez de sécurité. Alors concernant la sécurité, nous avons créé une police municipale que nous n'avions pas. Nous avons 3 policiers municipaux.
D'accord.
Nous leur avons créé des locaux, équipés, voitures, tout ce qu'il faut. Une vraie police municipale, à Montsou, c'est une première. Donc, ça se passe bien. Montsou est quand même une...
Ça a été bien accueilli par les administrés.
Très bien, très bien. Alors, j'ai constaté, là, je me suis rendu compte, on a fait une réunion publique il n'y a pas très longtemps, justement, sur les problématiques de sécurité. Et il y a eu quelques réactions de personnes qui ont apprécié que j'ai refusé que mes policiers municipaux soient équipés d'armes létales. Et ça a été plutôt apprécié par la population.
Bon, écoutez, tant mieux, parce que c'est vrai que c'est c'est un vrai sujet dans plusieurs communes.
Et par ailleurs, ça me semblait hors sujet, cette arme létale.
Oui, compte tenu de votre...
On a une gendarmerie sur le territoire de Montsou. On a une gendarmerie, donc ça permet de définir les rôles de chacun. Les interventions dure, si on peut dire, où l'arme peut se révéler nécessaire pour la sécurité même des gendarmes. La question ne se pose pas dans ces termes avec notre police municipale.
Silvio Biello, alors on se connaît un petit peu maintenant depuis quelques mois.
C'est vrai.
Je sais que vous avez une passion pour la musique. Je vous en laisse nous dire quelques mots.
Oui, c'est une passion. Ça a même été un métier à une époque. Je suis batteur. J'ai enseigné beaucoup la batterie. J'ai été prof de batterie pendant une vingtaine d'années.
Oui.
J'ai été musicien professionnel. La période la plus intense en tant que musicien professionnel, ça a été pour moi dans les années 90. Et donc, je continue de jouer. Mais là, maintenant, je joue en amateur éclairé, on va dire. Et je ne m'imagine pas sans jouer de musique, sans faire de musique.
Oui, c'est une passion.
Et du coup, ça a un peu influé sur ma... Une fois que je suis élu, évidemment, j'ai quelques ambitions sur le plan culturel.
Oui, oui. Vous voulez nous en dire un mot ou on laisse
la parole à mes adjoints.
Très bien.
Et Laurence, je pense qu'elle a deux, trois choses à dire sur le sujet.
Oui. Alors, une dernière question. C'est pas une question piège, hein, mais avez-vous l'intention de vous représenter aux prochaines élections parce que c'est bientôt?
Oui, je m'en cache pas. Je commence à... Les gens m'interpellent pour me demander. Là. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps encore. Oui, je me représente.
Très bien. Bah, écoutez, on aura le plaisir, je suis persuadée, de vous réinviter chez IDFM Radio en tant que maire.
C'est gentil.
Merci, monsieur le maire de Montsou, Silvio Biello. Donc, bravo pour ce parcours que nous souhaitons long et riche hein, et pour cet éclairage sur les actions de votre commune.
Merci.
Il est juste temps de faire une pause. Restez avec nous, on se retrouve très vite.
Usually like to love and leave them fast. Something that you're doing got me thinking. I'ma take my foot up off the gas. She said, hey, I like where this is going. So let's just take it slow, slow motion. Been waiting all day to get you in this moment. So let's just take it slow, slow.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
IDFM Radio, c'est l'économie en direct où je suis toujours en compagnie de Silvio Biello, maire de Montsou, président du CIRGES, vice-président de la communauté de communes Carnel Pays de France, Laurence Cartier-Boitard, maire adjointe en charge des finances de l'administration générale, de la jeunesse et des loisirs, et Gilles Weckmann, maire adjoint en charge du développement durable, des sports et de la vie associative. À présent, place à madame Laurence Boitard. Donc, j'allais vous demander comment se retrouve-t-on maire adjoint à Montsou, mais Monsieur Biello nous a un petit peu dévoilé votre parcours, Laurence.
Ben moi, en fait, je suis élue. J'ai été élue avec mon beau-père.
Oui.
Monsieur Boistard, c'est mon beau-père.
Ah, c'est votre beau-père, pardon.
C'est mon beau-père. Je suis mariée à son fils.
Oui, je suis sotte. Oui, j'aurais dû. Ouais, pardon, excusez-moi.
C'est pas grave. Je l'adore, donc c'est pas grave. Et donc, je suis élue depuis 2001.
Oui. Donc, très bien.
Ah oui, donc j'avais 32 ans. J'étais toute jeune.
C'est une vraie vocation.
Pas vraiment, j'y suis arrivée là un peu par hasard avec mon beau-père, mais je me suis vite pris au jeu en fait. Donc j'ai été d'abord conseillère municipale, puis ensuite maire adjointe en charge des affaires scolaires, et puis ensuite je me suis présentée. Ensuite on a donc été avec Silvio pendant 6 ans dans l'opposition.
Oui.
Et pour enfin que Silvio prenne la place.
Vous deviez ranger votre frein.
Non, on apprend beaucoup dans l'opposition, en fait. Oui, on apprend énormément. On voit l'autre côté des choses. On n'a pas accès aux informations comme un élu. Donc, on est obligé de chercher, d'essayer de comprendre. C'est très instructif.
Donc, ça a été formateur.
Très. Ouais. Très. Ouais. Vraiment. Je ne regrette pas.
Oui, c'est intéressant d'avoir ce point de vue.
Ouais. Oui.
Et donc, vous, donc en charge des finances, du budget, quels sont les principaux, quelles sont les priorités aujourd'hui budgétaires à Montsou?
Eh ben, de maintenir le cap, c'est-à-dire arriver à faire des projets, à faire vivre la commune, à la faire briller.
Oui.
Et tout en préservant les ressources, préservant les comptes. Voilà, donc il faut trouver un équilibre, c'est pas facile aujourd'hui.
Oui, parce que il y a quand même il y a l'augmentation des coûts de fonctionnement, certaines baisses de dotations.
C'est exactement ça.
Comment faire les arbitrages,
hein? On essaye de trouver des recettes ailleurs. En fait, on essaye de limiter des choses, de faire des achats groupés. Enfin, tout est bon à prendre. En fait.
Oui, oui, oui. C'est comme chez IDFM.
C'est ça.
Est-ce qu'il y a des secteurs qui en ont le plus bénéficié ou au contraire souffert de ces arbitrages?
Non.
Non.
Pas chez nous. Non.
Vous arrivez à maintenir un équilibre.
Oui, c'est important
correct.
Pour nous. Voilà, on essaye de donner toujours la même qualité aux services rendus à la population. Donc, on compte pas trop sur les accueils de loisirs, les écoles, etc. On fait vraiment ce qu'il faut. Derrière, des économies peuvent être faites. Voilà, sur des achats groupés, sur des fois on retarde un petit peu les choses. Mais on essaye de vraiment continuer à garder...
À maintenir le cap.
Une hauteur.
Certains investissements sont nécessaires, notamment pour améliorer les services publics locaux. Est-ce que là aussi, vous avez... Le cap est maintenu?
Oui.
Oui?
Oui, oui. On a fait pas mal de travaux d'isolation, de choses comme ça. On a bénéficié d'aides. Voilà, il y a aussi des... Dans les demandes de subventions, il y a de temps en temps des directions où il faut vite plonger. Il y a des bons
plans. Il ne faut pas hésiter.
Voilà.
Oui, ouais.
Donc, on est assez réactif là-dessus. On essaye de rechercher toujours le mieux.
Toujours avec l'aval de M. Biello.
Ah, bien sûr.
D'ailleurs, concernant les subventions, je peux ajouter que dès notre prise de fonction, nous avons affecté un collaborateur dans les services administratifs, à la mission d'aller chercher les subventions. Et ça a été très, très payant parce que je pense que c'est là maintenant, cinq ans après, on peut parler en millions, je crois, non?
Oui.
Les subventions obtenues, oui.
Parce que ces subventions ne sont pas automatiquement...
Non.
Il faut aller les chercher.
Oui.
D'accord.
Chaque projet doit faire l'objet d'une demande de subvention et selon la nature du projet. Si c'est un projet qui va être sur de la rénovation ou un projet qui va être sur du loisir ou c'est pas forcément le même organisme qui va subventionner. Alors les grands organismes subventionneurs, c'est quand même la région, le département...
L'Europe
et
aussi,
l'État.
Peut-être.
Alors les subventions européennes, en théorie, oui, il existe des subventions européennes, mais les dossiers... C'est une
usine à gaz.
C'est une usine à gaz, c'est un parcours du combattant pour remplir les dossiers. Et donc, c'est très compliqué. Les subventions européennes, c'est très compliqué.
Mais on ne désespère pas.
Vous en avez en cours, j'imagine.
On essaye.
Voilà.
Très bien. Il faudra revenir pour nous en parler.
Promis.
Alors, Laurence, vous êtes également en charge de la jeunesse. Quelles sont les infrastructures et activités mises à disposition de cette jeunesse à Montsou?
Bah déjà à Montsou, quand on est arrivé, on a voulu créer en fait quelque chose pour nos jeunes.
Oui.
On a un collège aussi à Montsou et on avait des accueils de loisirs très actifs. Mais après l'école primaire, en fait, on perdait un peu les jeunes et ça nous plaisait pas parce que c'est notre avenir et
bien sûr.
On a envie d'une cohésion et de liens sociaux dans Montsou. C'est important pour nous, d'intergénérationnel. Voilà, c'est vraiment des choses. Des leitmotifs pour nous. Et donc, on a créé le club ado. On a un club ado qui marche très bien. Il y a plus de 100 adhérents aujourd'hui.
Ah oui?
Voilà. Ils bénéficient bien sûr du parc de loisirs. C'est aussi en ce sens
oui,
que...
Ça, voilà, ça a dû être très bien accueilli.
Ah ben, ils sont heureux comme tout.
Ouais.
On a notre ex-salle polyvalente qui a été rebaptisée il y a 2 mois à peu près. En primeur. Donc
oui,
maintenant,
allez-y.
Cette salle s'appelle l'espace Lauré de Lille.
D'accord.
Donc on est toujours sur la forêt et la proximité avec la forêt de l'Isle-Adam. Et donc ils bénéficient aussi de cette salle et de toutes les infrastructures qu'on a à Montsou. On a beaucoup de...
Vous avez beaucoup de moyens justement pour que les jeunes ne s'ennuient pas.
Exactement.
Ouais, c'est important.
On a des animateurs aussi qui ont plein de facettes. On a beaucoup d'animateurs qui sont des grands sportifs. Qui ont ils peuvent tout faire à Montsou.
C'est ça. Ouais. Oui, il n'y a pas de... Parce que c'est vrai que on peut penser que Montsou est un petit peu éloigné. Hein. Enfin, vous êtes dans un cocon quelque part, mais ça n'a pas d'influence sur l'activité des jeunes. Silvio Biello, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, pour compléter ce que disait Laurence et ce que vous venez de dire, c'est que Montsou, oui, on a l'impression que Montsou est une petite ville. Et même avant, on pensait plutôt au village même, retiré un peu à l'écart. Et en fait, on n'est pas si à l'écart que ça, puisqu'on est on était, je parlais à l'imparfait, je vais vous expliquer pourquoi, on était au bord, juste contre la nationale 1.
Oui, c'est vrai.
Qui est une nationale maintenant qui a été un peu enclavée, puisqu'avec la connexion entre la francilienne et la A16, cette portion de nationale 1 est venue... Ça va devenir une départementale d'ailleurs et ça va devenir une avenue de ville. Ce n'est plus la nationale qu'on a connue en voie rapide, en voie express.
C'est ça, avec le site de la Croix-Verte.
Le site de la Croix-Verte. Et donc Montsou n'était pas si retiré que ça, puisqu'on était sur un axe routier important. Et là, on l'est d'autant plus qu'il y a, comme je vous le disais, la francilienne et la A16 qui sont connectées à proximité. Et il y a, comme on disait juste avant, la gare.
Oui.
Donc la gare, ça a imposé... un lycée professionnel, un collège,
d'accord,
et un complexe sportif, justement, pour les jeunes de ce lycée, de ce collège, et ce complexe sportif, bien évidemment, le tissu associatif sportif local peut en bénéficier aussi. Donc tout ça pour dire qu'il y a vraiment des infrastructures. Et pour revenir sur ce que disait Laurence à propos des ados, à propos de nos jeunes... Dans les mandatures précédentes, je remonte assez loin, je remonte aux années 80, la commune avait fait l'acquisition d'un château avec son parc. Ce château a été entièrement restauré, rénové, et c'est devenu la maison des associations.
Donc, d'accord.
Nos associations sont quand même gâtées, c'est un château. C'est pas mal.
C'est pas rien, oui.
C'est pas rien, et ce château est dans un magnifique parc arboré qui, justement, est à la lisière. C'est l'orée sud de la forêt de l'Isle-Adam.
D'accord.
Le parc.
Oui.
Et dans ce parc a été construit, dans les années 80, notre salle polyvalente qui vient d'être baptisée Espace Lauré de Lille. Et nos associations, la population en général, a la chance de jouir de pas mal d'infrastructures quand même.
Est-ce ce lieu où il y avait le Guitar Village l'année dernière. Oui,
voilà,
très bien. Oui.
Là, on va accueillir
C'est un bel endroit, oui.
Oui, ah ben, vous étiez venu.
Oui, je suis venu, oui.
Voilà, c'est cette salle-là. Oui, oui.
Ouais,
magnifique
bien,
salle
bien.
De spectacle.
Ouais.
Selon la configuration, on peut être en debout. Bon, là, quand on est sur un concert où les gens seraient debout, on peut contenir jusqu'à 700 personnes.
Ah, oui, non, c'est une superbe salle très bien aménagée.
Et on a une scène magnifique, une très grande scène avec des équipements dignes des meilleurs théâtres parisiens.
On va en parler tout à l'heure. Alors, vous me dites que vous avez ce lycée professionnel. Est-ce que c'est un accès des jeunes à l'emploi, la formation, l'apprentissage, ce lycée professionnel?
Oui, alors Silvio, je pense que tu en connais plus que moi sur le lycée professionnel.
Oui, alors le lycée professionnel, il y a plusieurs disciplines qui sont enseignées. Il y a l'électrotechnique,
oui.
Technique de vente, l'événementiel aussi, hein, Gilles.
Il me semble oui, qu'il y a tout ce qui
est gestion des événements, toute la partie intendance de l'événementiel. Voilà les disciplines qui sont enseignées. Il y a 500 jeunes, environ 500
d'accord,
jeunes, oui.
D'accord.
Et en termes de réussite sur le marché de l'emploi, par contre, je n'ai pas de chiffres à vous donner.
Très bien. Est-ce qu'on peut dire que le dialogue entre les jeunes et la municipalité se passe bien? Je m'adresse à tous les trois.
Oui. J'y vais régulièrement, je suis invité, oui. Il y a des événements, des portes ouvertes.
On a remis les diplômes, il y a pas longtemps.
On les accueille justement dans notre espace Loret de Lille pour la remise des diplômes, et au collège et le lycée.
Oui, très bien. Merci, je vous propose qu'on marque une courte pause et puis on reprend ce dialogue avec les loisirs, Laurence, dans quelques instants. À tout de suite.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio, 98 FM.
C'est l'économie en direct et ce matin, focus sur la ville de Montsou. Je suis en train d'interviewer Madame Laurence Boitard, maire adjointe aux finances, à la jeunesse et aux loisirs. Laurence, donc au niveau des loisirs, je crois que vous avez beaucoup de choix, hein, il me semble. Quelles sont d'abord les infrastructures et activités mises à disposition des habitants pour ces loisirs?
Ben, il y a déjà notre espace, donc Loret de Lille, qui est une salle, Sylvie en parlait tout à l'heure, une salle à multifacettes. On peut faire du théâtre, du projection de cinéma, de la danse, des concerts, vraiment
oui,
tout. Vu la configuration, la grandeur de la scène et de la salle, voilà, on peut vraiment faire toute activité. On a le château, vous en parlez tout à l'heure. Qui est la maison des associations et qui a une salle aussi qu'on peut louer pour des mariages, pour des choses comme ça. Nous avons le complexe sportif.
Oui, oui.
Voilà, qui accueille non seulement les collégiens et les lycéens, mais aussi toutes les associations sportives de la commune de Montsou.
Et peut-être les associations culturelles aussi locales.
Pas trop dans le...
Non, c'est plus...
Non, le complexe sportif, c'est vraiment pour le sport.
D'accord.
On peut y faire quelques événements, comme le forum des associations.
Oui,
ça,
oui.
Ça se fait au complexe
cet endroit,
sportif.
Oui, oui.
Le marché de Noël.
Le marché de Noël, oui.
Voilà,
oui.
On fait quelques événements, mais globalement, c'est très, très majoritairement du sport.
Alors, je sais que vous avez un événement majeur, hein, toutes les fins, le dernier vendredi du mois, c'est-à-dire vous faites une scène ouverte.
Le premier.
Ah, le premier, pardon, excusez-moi. Le premier... Je savais que c'était un vendredi, donc je sais par oui dire et par des personnes qui fréquentent cette scène ouverte que ça marche très très bien, très fort.
Ah oui, c'est vraiment une grande réussite. Ça va même devenir peut-être problématique à un moment parce que vraiment on accueille vraiment beaucoup de monde de tout horizon, de toute génération.
Donc on ne fait pas d'appel pour le prochain. Pour la prochaine.
Je pense que les gens sont assez au courant, mais si vous pouvez, non, il n'y a pas de souci, on trouve toujours un peu de place, mais voilà, non, ça marche très bien, on est content, c'est vraiment, il y a toute génération.
Expliquez-nous exactement le concept.
Ben, en fait, les gens viennent, donc il y a des tables, la salle est équipée de tables où on peut boire un verre, manger, dîner. Et sur scène, il y a un groupe référent, en fait, qui va un peu animer la soirée pour pas que ça parte dans tous les sens.
Oui, oui.
Et des musiciens qui arrivent de n'importe où, avec des instruments ou pas d'instruments. Les instruments peuvent aussi être... ils sont sur scène. Donc, soit on arrive avec sa guitare, on la branche, ou on prend les instruments qui sont sur scène. Et en fait, ça s'appelle une jam session. Et les gens jouent ensemble... soit par groupe ou alors les groupes sont créés...
Se créent peut-être sur place.
Voilà, sur place aussi. Ils s'inscrivent et pas préalablement, hein, le soir même, ils arrivent, ils s'inscrivent. Et donc il y a dans la salle toute génération parce qu'il y a des jeunes et des moins jeunes. Il y a des musiciens et des non-musiciens. Voilà, ça marche du tonnerre.
Ça marche très bien. Ça marche du tonnerre. Et ce ne sont que des musiciens, il n'y a pas de gens comiques ou enfin voilà des one man show,
non,
des woman
show. C'est vraiment la musique.
C'est ça.
C'est la musique. Ouais, ouais.
Des scènes ouvertes auxquelles vous prenez part, hein, je crois, Silvio Biello, de temps en temps.
Comme je vous disais tout à l'heure, je suis un ancien musicien professionnel, ancien professeur de musique. Donc oui, forcément.
Ça vous démange.
Alors, il faut savoir que les jam sessions, c'est quelque chose qu'on a mis en place à Montsou, que j'ai mis en place avec notre regretté régisseur, l'ancien régisseur de la salle, Jérémy Power, qui nous a quittés en 2020 justement, et il n'a pas eu la chance de voir évoluer cette salle. Je suis sûr que là où il est, il doit être heureux. Alors donc, on avait créé les jam sessions en 2001 ensemble. Et pour vous dire, quand je disais tout à l'heure que j'étais déjà un peu impliqué, proche de l'équipe en place,
c'est ça.
Je suis allé les voir, je leur ai dit j'ai une idée, je vous propose d'animer une scène ouverte. Et on m'a tout de suite dit oui, sauf qu'à l'époque c'était une fois par trimestre.
D'accord.
Et il n'y avait pas la possibilité de dîner.
Oui, c'était plus restrictif.
Et puis ça a été long à démarrer, c'était pas connu.
La
communication
temps, hein,
à l'époque, il y avait pas. Je vous parle de 2001, l'internet, les réseaux sociaux, c'était pas aussi développé que maintenant. Donc on avait plus de mal à communiquer. Toujours est-il que quand on a pris nos fonctions en 2020, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour porter ces scènes ouvertes et faire en sorte qu'elle décolle vraiment, qu'elle génère une dynamique et une grande fréquentation. Et donc on l'a mis mensuellement, au lieu de le faire trimestriellement. On a dit tous les premiers vendredis du mois, ce sera une habitude, et dans l'esprit des gens, ça permettra d'avoir un repère temporel fiable.
Oui.
Et puis on a ajouté la possibilité, assez rapidement, en 2021, je pense qu'on, il me semble, ou 22, je ne sais plus, on a ajouté la possibilité de pouvoir dîner.
D'accord. Ouais,
donc en fait, c'est un traiteur local, c'est le traiteur qui est juste en face de la gare de Montsou. On lui a proposé, évidemment, il était partant.
Il a trouvé l'idée.
Et ça fonctionne vraiment. Très bien. Ça a décollé, comme on dit. Oui.
Et alors, est-ce que ce sont plutôt des Montsoultois ou il y a des communes alentour qui participent?
Il y a de tout, en fait. Il y a vraiment de tout. Il y a des Montsoultois, mais ça commence à prendre un peu partout. On a des gens qui arrivent
de loin,
oui, c'est ça, oui, loin, parce que c'est
Cergy, l'Oise, le sud de Paris, voilà, ça commence à vraiment prendre.
Et les ceux qui vont sur scène, c'est gratuit pour eux, il y a une participation.
Oui. Non, pas du tout.
Mais c'est important
pas
de le dire
tout. Ils bénéficient d'une belle scène, ils sont heureux comme tout, parce que des fois pour des jeunes, c'est pas facile de trouver des scènes où se produire. Et là, ils font deux morceaux avec une salle remplie, avec un éclairage extraordinaire, un son. Donc pour eux, c'est une belle expérience.
Je sais que vous avez une salle
particulière. On fait comme si c'était un vrai concert.
Un vrai concert, oui.
On met tous les moyens techniques.
Oui, donc c'est formidable.
Oui.
On a notre Francky qui est musicien, donc peut-être que ça peut l'intéresser.
Pour venir.
On en parle.
Ah, oui. Pour venir nous voir. Vous jouez de quel instrument? Batterie. Vous êtes droitier ou gaucher? Alors c'est parfait. Je vous prête ma batterie, avec plaisir.
Laurence, est-ce qu'il y a des événements ou des projets phares prévus cette année qui doivent bientôt se produire?
Eh bien, on a notre Guitar Fest 3e édition.
Oui.
C'est le 30 et 31 mai.
Oui, d'accord.
Donc là, on a accueilli l'année dernière pas loin de 700 personnes sur deux jours, samedi, dimanche. Donc en fait, on a des luthiers, des grands luthiers, enfin tout ce qui concerne la guitare.
C'est très très vaste.
Voilà,
dans toutes les salles du château, je me souviens, il y a des
tatoueurs, voilà, et des concerts sur scène intérieure et une scène aussi à l'extérieur et qui s'enchaînent pendant deux jours, les uns après les autres. Voilà, donc c'est
là encore un grand moment.
Ah, encore un grand moment, ouais, c'est magnifique. S'il fait beau, alors là, ça va être
oui, fantastique. C'est vrai que l'année dernière, vous n'aviez pas eu la chance d'avoir du beau temps, mais il y avait malgré tout beaucoup du monde, hein, parce que là aussi, je crois que c'est un événement qui est connu et reconnu aujourd'hui.
Et là, on met l'intégralité du site à disposition. De l'événement, c'est-à-dire qu'il y a l'espace Loré de Lille, il y a le château dont on parlait, la maison des associations. Tout le rez-de-chaussée du château aussi fait partie de... reçoit, accueille le Guitar Village Festival. À l'extérieur, il y a des food trucks pour la partie repas.
Restauration,
Une scène extérieure, comme disait Laurence. C'est vraiment tout le parc qui est en fête.
Très bien. Merci, Laurence Boitard. Peut-être qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée, à laquelle vous souhaitiez répondre.
Non,
c'est bon.
Va bien.
Merci pour votre implication dans cette gestion de la ville de Montsou. Merci à vous. Voilà, on marque une nouvelle pause et on se retrouve dans quelques minutes avec Gilles Weckmann. À tout de suite.
Je vis pour elle jour après jour. Quand ses accords en moi se fondent, c'est ma plus belle histoire d'amour. Elle est restée en moi pour toujours.
Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso.
Je vis pour elle depuis toujours. Qu'elle me déchire ou qu'elle soit tendre, elle me décide après l'amour. Un arc-en-ciel dans notre chambre, elle est musique et certains jours, quand notre cœur se fait trop lourd, elle est la seule à pouvoir nous porter secours.
Est una musa che ci invita. Attraverso un piano forte, la morte lontana, io vivo per lei.
Je vis pour elle jour après jour, quand ses accords en moi se fondent. C'est ma plus belle histoire d'amour, un poignot che non fa mai male.
Vivo per lei, lo so, mi fa girare di città in città, soffrire un po', ma almeno io vivo.
Je serai perdu sans
elle. Vivo per lei dentro gli hotel.
Je suis triste et je la perds.
Vivo per lei nel vortice, attraverso la mia voce si espande.
Je ne vis que par elle. Je ne vis que pour elle.
Sopra un palco contro un per lei perché oramai io non ho altra via d'uscita, perché la musica lo sai davvero non l'ho mai tradita.
È la musica e la diselle, è il madonna e la clé du ciel qui m'ouvre enfin le porte du soleil. J'existe pas
per lei la musica.
J'existe pour
vivre
elle.
Vivre pour elle est unique.
Elle est toi et moi. La vie va faire. Io vivo.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
La ville de Montsou, c'est le thème de l'économie en direct sur IDFM Radio, aujourd'hui mardi 8 avril 2025. Avec moi autour de ce plateau, Silvio Biello, maire de Montsou, président du CIRGES, vice-président de la communauté de communes Carnel Pays de France, Laurence Cartier-Boitard, maire adjointe en charge des finances de l'administration générale de la jeunesse et des loisirs, et Gilles Weckmann, maire adjoint en charge du développement durable, des sports et de la vie associative. Alors Gilles Weckmann, maire adjoint du développement durable, c'est pas rien aujourd'hui, je crois.
Bah oui, il y a plein de choses à faire, c'est assez vaste comme
vaste,
domaine.
Oui, oui.
Donc, du coup, il faut y aller, et puis il faut trouver tout ce qui peut accompagner quoi, ce qu'il faut pour développer la ville en fait, dans ce domaine-là quoi, en fait.
Alors, quels sont les principaux projets en cours pour promouvoir ce développement durable?
Alors, pour le développement durable, on a déjà fait beaucoup de choses, notamment équiper la flotte de véhicules de la commune, la passer progressivement en électrique notamment.
D'accord, ouais.
Mais il
ne
faut pas tout basculer en électrique. Mmh. Donc, du coup, voilà. Donc, tout à l'heure, ça a été évoqué au niveau des différents bâtiments. Au niveau de la transition, il faut que les bâtiments soient moins énergivores. Donc, il faut aussi trouver des solutions, notamment l'isolation, trouver des moyens de chauffage qui sont moins gourmands. Sur l'espace public aussi, l'éclairage public est quelque chose de très important.
Mmh.
Donc, il y a eu un gros travail, notamment on a réduit l'éclairage public, mais sans que ça soit impactant sur la population. Et là, en fait, on va aussi passer sur de l'éclairage à LED.
Oui.
Et donc, du coup, il y aura quelque chose de, je pense, d'assez joli et d'assez oui. fonctionnel.
Et puis, ouais. de très économique, hein,
voilà.
forcément. Est-ce que vous avez... parce que le développement durable, bon, il y a vos actions, forcément, mais est-ce que vous arrivez à sensibiliser aussi les citoyens aux enjeux environnementaux et comment, si vous le faites, les encouragez-vous?
Alors, donc, déjà au niveau de la commune, on a une revue qui aborde certains sujets et donc du coup, on a aussi quand même pas mal de personnes qui nous sollicitent en fait. Il y a quand même les gens sont assez sensibles et nous sollicitent et nous donnent des idées aussi.
Oui.
Donc du coup, ça pose pas trop de problèmes en fait en soi.
C'est-à-dire vous avez des rencontres un peu participatives avec les citoyens?
Oui, régulièrement, même sur ça peut être dans d'autres thématiques où ils disent oui tiens il y a ça qu'il faudrait faire ou même en fait quand on propose des choses ils sont plutôt partants en fait.
Ils approuvent. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est un aujourd'hui c'est rentré hein, dans l'esprit des gens et donc Silvio Biello, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, tu sais Gilles, la campagne de thermographie qui a été initiée par la communauté de communes. Donc, c'est un droniste, un pilote
ah,
de
oui,
drone,
d'accord.
qui est équipé d'un drone avec une caméra thermique.
Mm-hmm.
Et chaque pavillon, enfin pour les communes qui souhaitaient bénéficier de cette action. Si tu veux en parler, Gilles, peut-être.
Oui. Comme tu veux, oui.
Vas-y.
Donc, du coup, il y a eu un développement pour chaque pavillon a été regardé d'un point de vue thermique et mmh. chaque propriétaire a pu avoir accès à ces images-là pour avoir un bilan global de son logement, en fait.
D'accord.
Donc, du coup, ça a été très apprécié.
Et... Oui, alors, au lieu de faire un diagnostic thermique à son propre, à ses frais, vous avez initié ça. Ah oui, bravo.
On a eu un accompagnement. Après, en fait, les personnes ont vu éventuellement les points faibles, les points forts de leur logement et peuvent faire des différentes choses.
Mmh.
Et la communauté de communes, donc Carnel Pays de France, aussi, il y a la possibilité d'avoir des rendez-vous pour voir donc tout ce qui est possible au niveau du financement.
Oui, c'était avec voilà. Ma prime rénov, enfin voilà, tout ça. Ça oui, parce que je reçois régulièrement la FFB et puis la CAPEB. On sait que c'est des usines à gaz, hein, ces demandes d'aide. Ouais.
Voilà, donc ça a été très apprécié. Puis après, il y a donc tout ce qui est pour les administrés. Et puis en fait, il y a aussi tous les bâtiments communaux. Donc notamment une étude actuelle pour tout ce qui est couverture photovoltaïque. Donc il y a des bâtiments qui s'y prêtent très bien, d'autres bâtiments qui s'y prêtent moins, en fait. Voilà.
Forcément. Laurence, vous souhaitez ajouter ?
Oui, si je peux rajouter juste aussi qu'on a un souci... On est très regardant aussi dans tous nos projets, sur ce sentiment de...
Cette fibre de...
Oui.
de
par exemple, on a dû changer un photocopieur, c'est un détail, mais...
C'est devenu, oui, c'est devenu réflexe.
On se pose la question, donc on prend des appareils, voilà, qui ont une fabrication noble, on va dire, au niveau de...
Oui, pour la souveraineté industrielle.
Voilà, qui utilisent de l'encre à froid, qui, au niveau près de la destruction, est noble aussi.
Quand
on a, c'est au niveau du recyclage, quand on a fait, on a refait une de nos deux écoles, l'école Ferry, c'est pareil, on a été sensible, sur tous les projets qui nous étaient proposés à ça.
Voilà. Très bien. Oui, j'allais vous poser la question justement, comment faire pour améliorer la gestion des déchets et encourager ce recyclage au niveau local?
Alors c'est plein de petits exemples. Par exemple, notre service technique au début, en fait, quand il faisait des coupes, on avait des dépôts, on va dire, de gestion de déchets. Et en fait, là, il y a eu un achat de broyeurs et donc du coup, ils ont du paillage et donc c'est revalorisé. Les administrés peuvent en récupérer. Le service technique l'utilise. Donc en fait, tout reste. Il y a moins de déplacements et c'est plus efficace aussi. En fait.
Oui, c'est ça. Donc vous êtes transition énergétique. Gestion des déchets et puis aussi comment on l'a vu des comportements éco-responsables au niveau des citoyens. Oui, Silvio Biello, je vous en prie.
Pour compléter ce qui a été dit par Laurence et par Gilles, justement concernant la gestion des déchets, par exemple, nous allons enclencher cette année la réalisation d'un centre technique municipal, parce que notre service technique manque de place, manque de capacité à stocker, à bien s'organiser, donc on va créer un centre technique. Ce centre technique municipal pourra accueillir du panneau photovoltaïque, ça va être conçu pour ça, et adossé à ce centre technique, il y aura une mini déchetterie. Nous sommes en lien avec le syndicat Trior qui gère la gestion des ordures ménagères, des déchets sur le territoire, et nous sommes en lien avec eux pour que cette mini déchetterie puisse devenir comme une sorte de pré-tri pour Trior.
Oui.
Il y aura des bacs, il y aura une navette possible. Ils nous amèneront des bacs vides. Une fois qu'ils seront pleins, ils pourront venir le chercher.
L'aménagement
est fait en collaboration avec le syndicat Trior. Ça vous donne une idée. Ça répond un peu à la gestion des déchets et photovoltaïque et différentes problématiques.
Est-ce que la ville de Montsou est sujette à des dépôts sauvages? Parce que c'est un vaste sujet aujourd'hui.
Alors, une des raisons pour lesquelles on fait cette mini déchetterie, c'est aussi pour gérer,
pour lutter,
aussi pour les dépôts sauvages. C'est-à-dire que, normalement, ça n'incombe pas à la commune de gérer les dépôts sauvages. Ça incombe, déjà, c'est interdit, évidemment.
Oui, bien sûr.
Le syndicat Trior devrait, en théorie, ramasser, mais bon, en dehors des heures de passage, eux nous
disent... Oui, il y a toujours des dissidents.
On peut pas passer tous les jours, tout le temps, ramasser. Non. Et donc la question est-ce qu'on laisse les dépôts sauvages en attendant qu'ils soient ramassés? Ça peut durer une semaine, deux semaines, trois semaines, vous avez des dépôts qui sont là.
Ouais.
Et même des fois dans certains secteurs agricoles, nous on est moins touchés, mais j'ai des communes voisines où des chemins agricoles qui sont remplis de déchets, de dépôts sauvages. On peut pas laisser ça comme ça. Alors, puisque vous parlez de ça, je me permets d'avancer un chiffre.
Oui.
L'année dernière, la gestion des dépôts sauvages a coûté à la communauté de communes 130 000 euros.
Ah oui,
voilà.
C'est
factuel.
Sur
Montsou, on est moins touché parce qu'on a moins de terres agricoles. Donc pour finir, la mini déchetterie a aussi été conçue pour que le service technique puisse ramasser les dépôts sauvages dans un délai le plus court possible, de faire un pré-tri et le syndicat Trior vient ramasser ces déchets.
Alors je me disais en vous écoutant, parce que avec cette technologie des drones là, ça pourrait servir aussi à repérer peut-être les dépôts sauvages.
La question s'est posée à la communauté de communes. Bien sûr, ça a été avancé cette idée.
Gilles Beckmann, dans vos attributions, il y a la vie associative. Alors je crois savoir que vous soutient et dynamise le tissu associatif local. Notamment, vous êtes à l'origine tous les trois de la création d'une association Chaîne de Vie. Donc je vous laisse Gilles nous en parler.
Alors Chaîne de Vie, oui, ça a été quelque chose qui a pris, on a hésité, puis au bout d'un moment, en 2018, on a créé cette association. Donc effectivement, il y avait Silvio qui faisait partie du bureau, il y a Laurence qui faisait partie du bureau aussi, qui fait partie aussi du bureau, et donc du coup on a voulu faire plein de petites actions, notamment sur l'accompagnement sur certaines personnes. Notamment, ça s'est avéré pour la Covid, puisqu'en fait, il y a pas mal de personnes de l'association qui ont fait des blouses. C'est aussi par rapport au petit patrimoine, puisque sur nos trois communes, là, du coup, on a Bailly-en-France, Montsou et Maffliers, on a beaucoup de petits patrimoines qu'il fallait revaloriser pour provoquer des promenades, pour que les gens redécouvrent ça. Donc c'est une association qui a bien démarré, qui reste dynamique. Oui. Donc il y a plein de choses qui se passent.
Alors ce patrimoine, vous êtes en lien avec la Fondation du patrimoine du coup pour rester, non? Parce que je pense qu'ils pourraient être intéressés de vous soutenir, peut-être.
Alors c'est vrai qu'on a démarré timidement, mais on a quand même pas mal de bénévoles tous les samedis matins qui travaillent déjà sur le patrimoine. Par exemple, ce qui est vraiment ressorti de terre, on a un lavoir qui était plus du tout connu, c'est sur une parcelle ONF, même l'ONF ne savait pas qu'il y avait un lavoir à cet endroit-là. Et donc du coup, tous les samedis matins, on est reparti pratiquement de zéro, ces bénévoles ont tout remis en place, et c'est un site où les gens du coup se promènent et disent on va aller à cet endroit-là pour voir l'évolution des choses, et donc c'est très intéressant.
Et ça représente combien de bénévoles alors cette association aujourd'hui?
Donc cette association elle est autour de 100-150 bénévoles.
Ah, c'est bien, voilà. Oui, bravo. Très bien. Un appel peut-être pour plus de bénévoles?
Oui, mais
il y en a jamais assez.
Oui, bien sûr. Mais bon, il y a beaucoup de personnes on a un renouvellement. Il y a quelques personnes qui arrêtent des fois parce qu'en fait ils déménagent. Tous les ans, effectivement, on a des gens qui rentrent dans notre association. En fait,
est-ce qu'il y a une adhésion pour rentrer?
Oui. Alors il y a une adhésion assez symbolique de 20 euros par an, en fait. Mm-hmm. Et donc le président actuel, c'est Thierry Parent.
Très bien. Silvio Biello, un mot sur cette association?
Oui, alors, vous nous proposiez de lancer un appel pour plus d'adhérents. Alors, oui, plus d'adhérents, c'est bien. Et on peut aussi lancer un appel pour des dons, parce qu'il y a des actions qui sont menées par cette association qui représentent un coût en achat de matériaux, par exemple. Et on a besoin de moyens. Par exemple aussi, il y a un site qui est assez connu à Montsou qui s'appelle Le Belvédère. Et cet endroit a été laissé à l'abandon pendant trop d'années. Il a été envahi par la végétation. Il est très abîmé. Et on aimerait le restaurer. Et là, évidemment, ça va avoir un coût. On cherche donc du mécénat pour cette restauration, et je cherche aussi une école qui peut-être serait intéressée pour faire travailler les apprentis maçons ou autres corps d'État. Peut-être le compagnonnage. J'ai pas d'idée précise, sinon que nous recherchons Des bonnes volontés.
J'espère que ce message passera et sera entendu. Donc, enfin, il va passer et qu'il sera entendu par nos auditrices et auditeurs.
Merci.
Une dernière question. Je m'adresse à vous trois. Les enjeux de demain pour la ville de Montsou, Monsieur Biello.
Alors, les enjeux de demain, je serais tenté de dire, nous continuons sur notre lancée, je pense. On a réalisé des beaux projets, on les a concrétisés. Il y en a d'autres dans les tiroirs, comme on dit. Je suis même souvent moqué parce que
vous avez des idées qui fusent tous les jours.
Toutes les semaines, je leur amène une nouvelle idée. Donc à un moment donné,
c'est bien. Ah oui.
Vous le freinez.
C'est ça.
Voilà.
Non, mais alors, j'ai bien conscience qu'on peut pas tout réaliser. Je sais, mais c'est vrai que j'ai pas mal d'idées.
Il vaut mieux en avoir
toujours,
plus.
Je suis toujours en réflexion. Et donc voilà, si on se projette sur un mandat suivant, ça sera de continuer sur la même lancée, savoir toujours faire des choses dans le souci de préserver notre petite ville, le bien vivre qu'il y a à Montsou, proposer des services à la population, des infrastructures et voilà, c'est pas mal déjà.
C'est très bien. Merci Gilles Beckmann de nous avoir sensibilisés sur ce développement durable et puis tout ce qui en découle. Hein. Merci à vous. Moi, je suis convaincue que cette émission a permis à nos auditeurs et auditrices d'en apprendre davantage sur les projets et les défis de Montsou, un lieu où, comme vous l'avez dit, il fait bon vivre. Alors, nous arrivons presque à la fin de l'économie en direct sur EDFM Radio. On a une petite tradition, c'est que je redonne la parole à chacun pour un mot de conclusion. On va commencer avec vous, Laurence.
Ben, merci déjà pour votre accueil. On est très fiers de parler de notre petite ville qu'on adore. Et venez nous voir, il y a plein de choses à voir, ne serait-ce au niveau du patrimoine, c'est riche. Les animations, les concerts, le bien vivre, le bon vivre. Voilà, merci beaucoup.
Je confirme. Gilles Beckmann, un mot de conclusion.
Donc, merci à vous, effectivement. Et puis, à Montsou, on a aussi une grande surface forestière. Donc, pour se promener, c'est très bien aussi, en fait. Donc, il ne faut pas hésiter.
Donc, venir cueillir le muguet par ou exemple. Les champignons, selon la saison.
Tout à fait.
Très bien. Merci à vous. Silvio Biello, le mot de la fin est pour vous.
Merci de nous avoir accueillis sur votre antenne. C'est un plaisir, comme dit Laurence, de parler de notre commune, de la valoriser. Le mot de la fin, c'est... je serais tenté de dire... c'est pas la fin.
C'est une continuité.
On reprend dans un an. On va essayer de relancer encore cette dynamique, de la faire durer.
Voilà. Bah, écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite et moi je suis, j'espère que vous reviendrez maintenant qu'on a pris le pas, que vous reviendrez plus souvent chez IDFM Radio pour nous parler de votre belle ville.
Avec plaisir.
Merci infiniment, merci d'avoir été les invités en direct, de l'économie en direct. Merci à nos auditrices et auditeurs pour leur fidélité. Merci Francky pour la technique. Cette émission vous a plu, alors n'hésitez pas à en parler autour de vous et retrouvez-la en podcast sur le portail idfm98.fr. Vendredi prochain, rendez-vous à 9h30 pour un nouveau numéro de l'économie en direct. Belle journée et belle semaine.
IDFM Radio, 98 FM.
IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
J'ai vu le monde entier en fermant mes paupières. Et même les yeux fermés, j'ai ressenti la terre. J'ai vu le monde entier, juste en fermant les yeux. J'ai pu le visiter, voler sous un ciel bleu. J'ai vu la terre tourner autour du soleil. J'avais les yeux fermés et je voyais le ciel. Bye bye les humains, bye bye je vous laisse. Sous vos glissements de terrain, avec votre maladresse. Bye bye les humains, bye bye, je vous laisse. Moi, je serai là demain. Alors, bye bye. J'ai vu des vols d'oiseaux, des immenses forêts, de magnifiques cours d'eau couler sous les bosquets, des centaines de couleurs changer au fil des heures, des oiseaux migrateurs partir encore à l'heure. J'ai senti la lune éclairer mon visage, j'ai traversé la brume, dansé sous les orages, recouvert le bitume avec des plantes sauvages à toutes les latitudes, la terre en pâturage. En
encore de la beauté, beaucoup d'espoir. Et je mets tout ce que j'ai, je veux encore y croire. Mais si on se ratait, si on laissait choir, alors la terre saurait nous dire au revoir. Bye bye les humains, bye bye je vous laisse. Sous vos glissements de terrain, avec votre maladresse. Bye bye les humains, bye bye je vous laisse. Moi je serai là demain, alors bye bye. J'ai senti la rosée humidifier mon air et j'aime à respirer cette douce atmosphère. Les deux pieds sur le sol de ma belle planète, je me dis qu'on a du bol de pouvoir en être. Bye bye les humains, bye bye je vous laisse. Sous vos glissements de terrain, avec votre maladresse. Bye bye les humains, bye bye je vous laisse. Moi je serai là demain, alors bye bye. Oh, bye bye bye bye bye bye bye.
Thank you. plus.